L'expérience commence. Il n'y a pas eu d'écart, ou si peu, entre le cinéma et la vie pour Boris Lehmann. Il a collé les deux. Le cinéaste belge a filmé pendant 50 ans et sa vie et ses amis. Il pense maintenant, encore bien vivant, mais moins jeune qu'avant, à ses archives. Ou plutôt très concrètement, à ses 800 boîtes de films, ses 500 000 photos. Il va falloir quitter l'atelier, il va falloir ranger les films. Boris cherche un lieu pour après. Il écrit aux cinémathèques, mais est-ce qu'il peut y avoir une fin de cinéma avant une fin de vie? Est-ce que la vie peut se ranger? Et est-ce qu'on est sûr d'en avoir une seule? Isabelle Ingold et Viviane Perelmutter l'accompagnent dans les cartons. La réalisation est signée d'Ifi Mariani.
Alors je vais vous regarder, je regarde au même endroit. Alors que je vois bien que c'est plus là. Ça devait être là. Ou là. Je suis assez troublé avec tout ce qui se passe. Non, on ne s'entraîne pas là, 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 là. Il n'y a qu'une place. Et elle n'est plus à sa place. C'est... Voilà, il y a quelque chose qui... Je peux pas les trouver. Hein.
Boris Lehmann à la recherche du tombeau idéal.
Boris, tu es d'accord avec le titre qu'on propose?
Oui, c'est bon. Je vais pas y penser. C'est peut-être que la recherche n'est pas juste un nom. Oh, tu peux pas enlever ce mot. Un tombeau pour Boris Lehmann. Un tombeau.
Mais ça ferme, alors que la recherche, je trouve que c'est quelque chose qui ouvre et que rien n'est clos. Un tombeau pour Boris, c'est la caisse.
Le 19 mai 2018, j'ai eu un infarctus du myocarde. Au même instant, étrange coïncidence, suite aux travaux effectués dans le chantier, jouxtant mon atelier dans lequel je vis, une fissure est apparue. Cette fissure, je l'appellerai volontiers la blessure, semble s'être propagée dans toute la ville et même à l'intérieur de tout le royaume.
C'est arrivé pendant la journée, ça?
La nuit. En une nuit, elle est arrivée, celle-là.
C'est complètement absurde. C'est à cause des travaux à côté pour le supermarché.
Ouais. Le bâtiment a fait clac. Tout s'est affaissé d'un coup. Clac, comme s'il y avait eu un vide tout d'un coup en dessous.
Oui.
Est-ce que je vais passer à aller dire bonjour chez mon voisin en dessous de mes pieds? Est-ce que tout va s'écrouler? J'en sais rien. Et nous, on est seuls. Seuls face à ces fissures. On est complètement fissurés. On est complètement fissurés.
Sacré désordre, hein. Évacuer tout ça, ça ne te fait pas peur, toi. C'est dans l'ordre du possible.
Il y a beaucoup, quand même.
Oui. Ben, je vais devoir quitter mon atelier. C'est inéluctable. Et l'urgence, c'est l'urgence. On doit faire de tas, jeter, garder.
Mais je pense que tu peux le faire. Tu vois, les en bas, les bobines, le matériel, c'est important pour toi, parce que tu travailles.
Oui.
Les livres, peut-être que tu peux effectivement faire un tri aussi, peut-être.
Oui, oui, c'est sûr. Ça me fait assez mal. Toute ma vie, une partie de ma vie, se trouve ici, dans cet étalage. Hein. Ça a demandé 50 ans, 60 ans de vie pour faire... C'est comme des dépôts, des... La sédimentation, il n'y a aucun décorateur d'Hollywood qui peut faire ça. Ouais, peut-être que... je vais mettre...
Alors, je vais faire Boris.
Parce que c'est des chutes, donc il y a peu de chance, mais... Réserve, oui, oui. Grincement, c'est des sons, ça, alors. Tu vois des sons qu'on faisait, grincement, pas sur le gravier, croquer une pomme, chauve-souris, disque gratté.
Et ça, tu les gardes, les sons?
Ben, tu vois bien. Que... Qu'est-ce que tu veux que... Voilà. Et dans ce meuble-là, il y a mes cahiers, mes journaux intimes et mes agendas. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qui va s'en occuper? Il n'y a pas tous mes cahiers, mais il y en a déjà pas mal. Hein.
Il y en a beaucoup, oui.
Et aussi, pour décortiquer tout ça, il faut du temps. Tu dis un jour, mais... À un moment, le surnombre, je ne sais pas. Et maintenant, c'est trop tard. Enfin, je n'y arriverai jamais, c'est clair. On s'attache à beaucoup de choses et c'est pas une bonne chose, peut-être.
C'est difficile de jeter.
Oui. Ben oui. C'est le dilemme continu. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette? Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on jette? Je n'en sors pas. C'est sûr que j'oscille entre une chose et l'autre. C'est pour ça que je dis quand j'ai jeté... C'est radical, on ne peut plus revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. J'ai essayé toutes ces techniques au fond. Hein. J'ai filmé l'action de jeter des films, un film qui s'appelle Funérailles, de l'art de mourir, où je jette quand même 200, j'ai jeté 200 boîtes de films. Et... En fait, j'ai jeté mes films, mais en même temps, j'ai filmé. J'ai filmé que je jetais des films, donc il reste encore quelque chose. C'est la trace de la trace. Hein? Avant de jeter, voilà, je fais quelques photos. Mais bon, les photos elles-mêmes vont après disparaître aussi. Donc. Déjà, les choses enfermées dans les boîtes n'existent presque plus. Bon, c'est bien mis Béguinage, Petit Château, il y a encore des mots, mais... Tout ce qu'on ne voit pas vraiment, parce que mes copies, je les vois encore, là, on voit. Il y a une espèce de support visible, hein, c'est comme les livres dans la bibliothèque. On les voit, ils existent. Une fois que c'est dans une caisse, ça commence à perdre l'existence. Et...
Le fait de devoir ranger, tu peux ouvrir des caisses et te souvenir.
Oui, bien sûr. Ben oui, là... mais ça change avec le temps, parce que... Un moment, on dit ça, c'est important, c'est marqué même, important, ne pas jeter. Mais 20 ans plus tard, tu te dis pourquoi est-ce que j'ai mis important, ça m'a l'air complètement sans importance. Tu vois, tout ça, c'est très fluctuant. On sait bien que l'histoire est toujours à refaire et à réévaluer. Hein. Je discutais hier avec... Laurent Durcel, parce qu'on parlait de noms qu'on enlève dans le dictionnaire. Parce qu'il n'y a pas assez de place dans les dictionnaires. Donc, on rajoute des noms, mais on en enlève aussi. Oui, c'est bien ça le problème. Qu'est-ce qui intéresse même la cinémathèque? Parce qu'il n'y a pas assez de place pour mettre tout. Donc, ils font un choix. On ne peut pas vraiment... écrire sa propre histoire. Je sais pas. Ils sont dans un purgatoire ici, d'une certaine manière. On ne sait pas encore ce qu'on va en faire.
Non.
Là, il faut faire un plan. Mais ça doit être parti. Hein. Avant fin mars, ça doit être vidé ici. Alors, combien il y en a 1800?
1800 bobines.
Oui, ici, là-bas, et à l'Assas.
En fait, là, tu as 200.
Ça urge maintenant, je sais pas. Enfin, je vois un peu mieux comment je dois préparer les choses pour les évacuer. Hein, parce qu'à un moment, c'est ça, le camion arrive, on doit être prêt à mettre les caisses dedans. Voilà.
Il faut qu'on aille à l'Assas. Si les dépôts que tu as à Bruxelles, il faut qu'on aille voir les choses.
Oui. Non, c'est pas résolu. Ça s'embrouille dans ma tête tout le temps, tout le temps. 10, 15, 20, 25, 30, 200, 300, 400.
Boris semble désemparé devant ses propres archives. Il avait beau dire qu'il s'y retrouvait. On le sentait égaré dans le capharnaüm de l'atelier, qui ressemblait davantage à un entrepôt d'Emmaüs qu'à un espace habité où on dort et travaille. Toute sa vie, il avait été hanté par la crainte de la disparition, de la destruction des corps et de la pellicule.
Il n'y a pas d'autre solution.
Alors il en avait conservé les traces, toutes les traces.
On les dépose quelque part.
Les objets les plus disparates s'étaient accumulés chez lui. Et dans ses films aussi, il avait essayé de tout faire entrer et de relier ce qui semblait séparé.
Et après,
les lieux, les êtres, les morceaux épars de sa vie.
C'est important de savoir ça après ma mort, où se trouvent mes choses là. Après ma mort, c'est peut-être. Je te donne un secret quand même. Où il faut aller pour voir les répertoires.
Et voilà que le temps sonnait le glas. Le sanctuaire des archives était menacé. Et le corps même de son gardien était devenu fragile et précaire.
T'auras oublié ça dans 3 mois ou dans 6 mois.
Alors celui qui, pendant 40 ans, s'était entêté à capter l'imprévisible du présent, devait désormais se conjuguer au futur intérieur de sa mort, prendre ses dispositions, trouver un lieu où déposer son amoncellement de bobines, de documents et d'objets pour le transmettre aux générations futures.
Et là,
mais la condition préalable
qui s'appelle
était d'y mettre un peu d'ordre et d'en réduire la quantité.
Répertoire. Photo, un sas, environ 30 caisses, 40-60 x 40, environ 3 mètres cubes. Grès, environ 3 mètres cubes. Négatif, armoire métallique. Dessus d'armoire. Positif, dia, disque. Environ 8 caisses photos.
Avec d'autres amis, on se proposait de l'aider.
Divers négatifs, positifs. Armoire centrale en bois, négatif.
J'ai envoyé un courrier. J'ai voulu dire à toutes les cinémathèques que j'avais des films à donner, des copies, des négatifs.
As manager or director of an institution devoted to the preservation of cinematographic works, I propose several 16mm films from my collection, all the film I produced and made. If you are really interested, before I disappear and film destroyed, contact me by mail.
Film de 60 minutes que j'avais intitulé Album 1, en hommage au film amateur Album de famille. J'ai filmé mes amis et je m'étais fait filmer par eux. Aujourd'hui, j'ai l'impression de refaire ce jeu. Mais la toile de fond a changé. J'ai beaucoup moins de cheveux, je ne roule plus en mobilette, et mes amis ne sont plus les mêmes.
Every day I watch a film.
Je voudrais
a film of mine. I watch it for the last time before putting it on a
je regarde la dernière fois avant de les détruire.
Tears are useless.
Je verse une larme.
Everything disappears in the end. Tout finit par disparaître.
Ça, c'est un des dépôts des affaires et des films. Ici, à la SAS.
Ouais.
On est dans l'ancienne chambre de coffre-fort de la banque, puisque avant que la SAS soit une école de cinéma, c'était une banque.
Ça fait quand même 30 ans que j'enseigne ici. Ben, ce n'est que depuis l'automne dernier que je connais cet endroit. Je ne me souviens pas avoir vu un film de toi sans qu'il y ait au moins 4, 5, 6, 10 séquences où on te voit ouvrir une caisse, la refermer, la déplacer, la porter dans un autre endroit, dans un autre lieu, trier, classer, refaire.
Oui.
Et puis je me souviens pas non plus d'avoir vu un seul de tes films où tu ne portes pas des bobines. Toujours là aussi, d'un endroit à l'autre. Et au milieu, comment dire ça? Ben un corps de piéton de Bruxelles, qui va justement d'un endroit à l'autre en portant des trucs et des brôles. Brôle, c'est belge comme expression, j'aime bien, moi. Le petit brôle, sauf que là, c'est du grand brôle. Et s'il y a bien quelqu'un qui a filmé 50 ans d'histoire de Belgique, c'est toi. Avec le même regard. Et un regard qui raccorde des bouts des autres. Et ça, c'est la question centrale de la Belgique. Comment on fait pour faire tenir ce brol debout? D'une certaine façon, c'est une définition du montage, et c'est la définition de ton cinéma. Et que c'est le bon moment, parce que je pense pas qu'il y a 20 ans, j'aurais compris ça. J'aurais eu la curiosité, tiens, Boris, montre-moi qu'est-ce qu'il y a dedans et tout ça. Mais c'est pas ça.
Si on ouvre une boîte, je sais pas, une caisse. Attention, parce que tout s'écroule toujours. C'est très embêtant.
Voilà. Et tout ça, tu les as classés. T'as des cahiers, t'as tellement de cahiers.
C'est classé d'une certaine manière, mais le reste n'est pas classé. Et voilà, il y a toutes sortes de choses.
En même temps, le classement, il est un peu dans ta tête. Parce que ce ne sont pas... C'est pas des photos de tournage et tout. C'est des moments de vie. Il n'y a pas une grande différence entre ton film et ta vie. Ça s'est toujours imbriqué. Et donc, quand tu ouvres une caisse, c'est pas un souvenir de film, c'est un souvenir de vie. Oui. Qui se confondent. Ça se retient mieux. Tu peux ouvrir telle caisse, la caisse Babel, tu sais très très bien avec qui... tu as démangé des petits gâteaux au mot café. Voilà, il y a des scènes là-dessus. Dans tous tes films, tu as mangé un petit gâteau. Et c'est pourquoi tout ça, c'est aussi l'archive d'un pays. Parce que tous ces lieux où tu mangeais des petits gâteaux, ils se sont gentrifiés, boboisés, ils n'existent plus. Et tu as comme ça une galerie. Moi, je pourrais faire un guide de l'histoire de la pâtisserie bruxelloise avec des photos de Boris Lehmann.
C'est vrai. Comme à chaque fois, je fous un peu le bordel.
Regarde. Celle-là, c'est Nadine. T'amuse. Ça, c'était ton preneur de son d'époque. Ça, c'est Nadine.
J'ai du mal.
Ben oui.
Parce que tout est personnel. Et c'est très difficile de s'en détacher. C'est très vrai. Et même François Truffaut, qui est un cinéaste dans le système industriel commercial, il disait ça à propos de Jean-Pierre Léaud. Il disait, je peux tout jeter quand j'ai fini un film, les chutes, les plans non utilisés, mais Jean-Pierre Léaud, je ne peux pas le jeter. Ça me parlait très fort. Jeter son propre soi, si on veut, ou les morceaux de soi. Mais c'est la même chose avec mes dents. Pourquoi est-ce que je garde mes dents? Pourquoi est-ce que je garde mes cheveux? Voilà, parce que il y a un peu de fétichisme là-dedans, bien sûr, mais... C'est parce que, bon, c'est une partie de son propre corps. Et déjà, j'ose ouvrir une boîte et montrer des photos parce qu'il y a quelqu'un. S'il n'y a personne...
Oui, c'est vrai.
C'est comme mes films, je ne peux pas les faire seul. Pour faire un film, j'ai besoin de quelqu'un. Même si c'est un film à la première personne, sur ma solitude. Pour montrer ma solitude, il me faut une autre personne. Je fais du cinéma... pour ne pas être seul. Donc, ça n'a rien à voir avec le produit film, avec même l'art du cinéma. Ça n'a absolument rien à voir.
Parce que ton cinéma n'est pas commercial, pas dans le sens qu'on entend d'habitude, d'un cinéma qui serait élitiste, c'est pas, et que personne ne comprendrait. Non, il n'est pas commercial, parce qu'il est fait avec des bouts de chandelle, avec l'aide d'amis, avec un peu d'argent quand même, il y a quelques subventions, mais il n'a pas pour vocation, et tu l'as dit toi-même, à être un produit que l'on va commercialiser, comme on le dit. C'est un produit qui vise à rencontrer des gens. Avec cette très belle image, c'est une des premières que j'avais de toi. À l'époque, tu avais un Polaroid. Et tu photographiais tous les gens qui sortaient de la salle, y compris ceux qui sortaient avant la fin. Comme ça, tu avais une belle galerie de portraits. De ceux qui n'ont pas aimé le film, on peut les retrouver, ils sont dans une caisse. Donc tu es quand même le seul cinéaste du monde à avoir pris en photo tous tes spectateurs. Et la trace de cette brève rencontre, elle est là, dans cette caisse-là, peut-être.
Cassette, message, téléphonique.
Oh.
Ah, c'est une boîte qu'on a
ouverte. C'est magnifique, parce que c'est la voix.
Octobre 90.
Et là-dedans, c'est la voix de Pageant qui ont disparu.
Boris, c'est Mériot. Ben, je voulais juste te dire un petit bonjour. Et puis voilà, j'ai entendu ta voix, j'avais un peu le cafard et j'avais envie de t'entendre. Puis j'espère que tu vas bien. Et puis je t'embrasse. En principe, je reprends demain le boulot ici. C'est dur. Enfin, j'ai du mal. Je t'embrasse, à bientôt.
Je cherche après Boris, comme Boris.
Il y a un milliard que venir. Lehmann, Boris. Il y a un moment de toute façon. Prachtige film.
Hallo Boris.
Laatste zondag.
Boris Saxel, Yellow Town, c'est un vrai plaisir de te voir. Je t'embrasse et...
Bonjour Boris.
N'hésite pas dès que tu reviens. J'espère que tu vas bien.
Moi je suis dans les fins fonds de la merde. J'essaierai de venir quand même. J'ai perdu mon boulot, mon appart, enfin mon tout fout le camp. Vraiment, premier degré. Au premier degré, j'insiste. Et j'espère venir.
Ça me fait mal.
Mais si je comprends que ce soit tellement... Oui, il faut employer le mot, hein, c'est de la douleur. Parce que c'est pas uniquement un morceau de passé que, dont tu es obligé de te séparer. Alors je sais pas où ça va aller, tu vas nous le dire, mais en tout cas, ça va pas rester ici. Mais c'est un morceau de futur. Tu te sépares d'un outil de travail.
Il n'y a pas de nostalgie. Je ne suis pas tourné vers le passé que je veux garder à tout prix. Mais encore aujourd'hui, je regarde des bobines de Babel avec des plans qui n'ont pas été utilisés, qui pourraient encore entrer même dans un film que je fais maintenant.
Oui, oui, oui.
Et ça, c'est des chutes négatives qui n'ont pas été utilisées. Mais dans un film normal, il y a une histoire, il y a des plans qui ont été tournés dans l'ordre du découpage. Dans mon cas, c'est différent. Le film se faisait en filmant. Donc je filmais quelque chose. Et jour après jour, évidemment, ça s'accumule. Il y a une matière et à un moment, il y a une espèce de sujet, de scénario qui transparaît dans tout ce qu'on a filmé. Et alors on construit un film au montage. Donc c'est un peu le mouvement inverse. Ici, on filme et on arrive à un scénario. Quand je filme, je ne filme pas pour un film, donc. Je filme pour beaucoup de films possibles. Et il y en a qui arrivent à se finir, je dirais, et d'autres images qui restent inutilisées parce qu'elles n'entrent pas dans le montage. Elles ne sont pas encore devenues un sujet d'un film.
On est dans le travail à venir. Oui. Tu m'as dit un jour, je ne tourne plus de films, mais t'en fais encore, mais autrement. Tu ne tournes plus. Oui, mais tu vas achever l'inachevé. Alors si ce n'est pas à portée de main, comment on va faire? Donc moi, je me dis que c'est compliqué.
C'est vrai. C'est là le problème, au fond.
Parce que là, ce qui m'effraie aussi, c'est que là, regarde, c'est plein de bobines de films. Certaines, elles doivent dater d'il y a 40 ans.
Oui.
Et on sait bien que le cas, même dans un lieu de cinéma comme l'Assas, la température n'est pas la bonne. Moi, j'ose pas les ouvrir, hein, des bobines. Hein. Ça se trouve, ça se dégrade vite, la pellicule. Donc oui. L'intérêt d'une cinémathèque, c'est quand même de conserver, pour sauver.
Oui.
Tu peux pas laisser 40 ans ces bobines dans les caves de cette école.
Oui, bonjour, on a rendez-vous sur les archives de Boris Lehmann.
Ok, je descends.
Merci beaucoup.
Je connais les lieux, hein, comme ma poche.
Bonjour Boris, comment allez-vous?
Bonjour.
Ça va?
Merci.
Nous sommes ici dans ce qu'on appelle le SAS. C'est l'endroit où on doit mettre une pellicule négative, surtout des négatifs, où il doit rester entre 24 et 48 heures pour s'acclimatiser en fait. Et puis sur les deux côtés, nous avons un frigo pour les négatifs en noir et blanc et sur la gauche un frigo pour les négatifs en couleur.
Boris, est-ce que toi, tu sais un peu où sont tes films ici?
Ici, non. Mais je vois beaucoup de films que je connais. Donc, les miens doivent être quelque part ici. Oui. On arrivera à voir un film de moi, là-dedans? Vous savez où il se trouve? Non.
Il faut,
c'est
en
pas
fait,
par ordre alphabétique.
Non, il faut, voilà, la côte. Donc, ah, il faut passer par la base de données.
En circulant, je peux finir par trouver l'un ou l'autre. La chambre froide. Coup de vieux. Les jouisseuses, les tripoteuses. La cinémathèque conserve tout, hein. La forêt. Ah non, c'est les seigneurs de la forêt, oui, c'est très important. Histoire de ma vie, voilà un film. Voilà, un film de moi. Voilà, un film de moi. Une, deux, trois, quatre, cinq bobines.
On l'a trouvé.
Et encore ici, négatif image. Alors, il faut encore ouvrir les boîtes, hein, et voir si le film est dedans, parce que... on peut se tromper, hein. Parfois, on trouve un autre film dans la boîte. Il a l'air en très bon état.
Oui,
bah,
très, oui, très bon
visuellement
état.
Visuellement parlant.
C'est parfait. Bien, et puis, voilà, et ça n'a rien de tout.
Il y a déjà beaucoup de films de Boris Lehmann qui sont conservés chez nous. Et c'est très important de ne pas disperser les collections et de garder ensemble les collections films, mais aussi non-films, donc tous les archives papier, qui sont liées à la production d'un film et à son exploitation. Et donc, je pense que, en tant que Cinémathèque Royale de Belgique, nous avons dans nos missions la restauration du patrimoine belge. Et donc, ce patrimoine, pour nous, est à restaurer ici, en Belgique, dans un cadre de valorisation du patrimoine du pays.
Mais ça, c'est des généralités. Oui, il y a, disons, une trentaine de négatifs montés de films. Disons, les films plus officiels de moi. Mais d'abord, j'ai fait beaucoup de films. Il y a une espèce d'accumulation. J'ai tourné dans beaucoup de formats différents, hein, qui sont les Super 8, les 8, les cassettes vidéo, le 16 mm. Voilà, il y a beaucoup de films aussi qui sont autoproduits, on peut dire. Donc, je les ai conservés comme des cinéastes amateurs conservent leurs propres films, parce qu'il n'y a pas de copie, il n'y a qu'un original. Bon, voilà.
C'est clair que conserver les films chez soi, ce n'est pas... la meilleure manière de le conserver. Après, je comprends l'attachement d'un réalisateur à son travail. Ça, je le comprends très bien. Mais si vous demandez à un conservateur quelles sont les conditions optimales de conservation, ben, ce n'est pas chez nous, dans notre cas. S'il y a trop d'humidité, on aura certains problèmes comme les champignons, les moisissures, les bactéries, etc. Et s'il n'y a pas assez d'humidité, en fait, la pellicule devient très, très sec, ondulée, il y a des problèmes de rétrécissement. Et puis, il y a les autres problèmes pour les films, mais c'est les problèmes de toute collection. Donc, je dirais la saleté, l'eau, la rouille, l'huile, la pollution.
Tu vois, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle a dit, au fond, hein. L'unification, la dispersion. Moi, je ne suis pas la dispersion, c'est clair. Ça ne change absolument rien. C'est pas parce qu'il y a une copie en VNOZER qu'on ne peut pas l'utiliser à Paris, en fait. Ça ne tient pas debout. Si on met toutes les choses dans le même endroit, s'il y a un incendie, tout brûle en même temps. Ça, je peux aussi dire, alors. Hein? Donc, ça rime à rien de dire ça.
Boris, ils ont numérisé combien de tes films dans les 30 là qu'ils ont ?
Un seul. C'est le Magnum Beginnation, le Beginnage.
Pourquoi ? Pourquoi tu crois qu'il n'y en a qu'un ?
On attend souvent que l'auteur soit mort, hein, pour commencer à numériser. Ça ne se fait pas de son vivant.
Pourquoi tu dis ça ?
Ça s'est vérifié. Chantal Derman, par exemple, Thierry Zeno, par exemple. Enfin, des gens que j'ai fréquentés, que je connais, je parle. Henri Storck, je ne sais même pas si c'est déjà numérisé. En partie. Donc, moi, je ne peux pas parler post-mortem. Je fais des films, ils sont encore montrés. Oui.
Allô.
C'est moi, Boris.
Ah, Boris, tu m'as pas dit que tu passais, mais...
Mais si, je savais bien passer 5 heures. Je n'ai déjà pas dit que je passais. Et...
attention. Attention, c'est mortel.
Ça peut l'être en tout cas.
Tout est en place, hein? Même nettoyé cette cage.
Oui, oui, tout à fait.
Est-ce que c'est moins bien classé qu'à la Cinémathèque Royale?
Parce qu'on ici, il y a une bonne température, alors, pour...
Je m'en fous, moi, de la température, l'humidité, la moisissure, la lumière. Elle a raison, si tu veux, mais je m'en fiche. Le cinéma, c'est vivant. C'est pas un truc dans une boîte fermée dans un musée que plus personne ne regarde et que plus personne ne touche. Le film, voilà, ça se projette, donc ça s'use, ça se raye, il y a des poussières, ça gondole, voilà, mais c'est la vie de la pellicule comme la vie de l'homme. Et on pouvait estimer à l'époque que la vie d'un film, c'est comme la vie d'un homme, à peu près 100 ans, disons, un peu plus.
Alors, en tout cas, je peux vous dire que c'est toujours émouvant de recevoir régulièrement Boris qui vient, il sonne, il dit voilà, c'est Boris. Et puis descend dans la cave et il reste. Je sais évidemment pas très bien ce qu'il y fait, mais il classe, il déclasse, il prend. Et voilà, c'est assez.
Tu vois, histoire de ma vie, on a vu le négatif tout à l'heure des films à la Cinémathèque. Mais ici, il y a des éléments du film importants qui ne se trouvent pas à la Cinémathèque. Il y a aussi beaucoup de sons ici, originaux. Dans toutes ces boîtes. Les sons, ça m'intéresse très peu. Les bibliothèques, les cinémathèques, les sonothèques.
Copie de travaux, plus son. Bim 2, son à mixer, 3 et 4, chute. Bob, son 2, plus son 3. Histoire, volume, photo, cri, Adrienne, son seul.
Mais Boris, je vois bien quand tu dis la vie d'un film, hein, et que tu as toujours fait avec ça, avec la vie de la vie et la vie des films.
Ouais.
Mais néanmoins, là tu es en train de réfléchir à comment ils puissent exister après que tu sois parti et qu'on les voit encore.
Je ne vais pas laisser ça, parce qu'il va devoir le supporter, emporter ça à la déchetterie. Donc, il faut quand même, un moment, mettre ça quelque part, comme on dit.
Non, c'est pire que ça, j'apporterai jamais ça à la déchetterie, donc ça restera, évidemment.
Oui, mais comme toi, tu ne resteras pas, il y aura d'autres personnes après.
Oui.
Tu sais que je suis expulsé.
Je sais.
Un nouveau déménagement va arriver.
Et tu sais vers où?
Mais non, évidemment.
Évidemment.
Vers où? Droit dans le mur. Oui, c'est la fissure dans le mur, oui. Suite aux travaux qui ont commencé il y a 2 ans, et le bâtiment s'est fissuré. C'est pour ça que je fais un film, qui se termine très bien, parce que, comme j'ai ramassé le 9 de trèfle, c'est le renard. C'est une très bonne carte. Il est rusé, comme Ulysse. Donc, la fin sera heureuse.
Bonjour.
Ah.
Enchanté. Bienvenue chez lui, hein.
Laurent, c'est l'auteur de cette plaque. Ici, le cinéaste Boris Lehmann ne fait que passer.
Et donc hier soir, il a mangé chez nous et je me suis donc engagé à faire une nouvelle plaque. Ici commence ma dispersion. Alors, je vous donne rendez-vous ici le 21 mars, jour du printemps, du haut de cet escalier. Il va, devant une foule d'aficionados, il va dire « Ici commence ma dispersion, descendre ». Et il va descendre, bien entendu, pour expliquer la géopolitique de la dispersion de tous ses effets. dans toutes les cinémathèques, dans toutes les caves, les greniers, la dispersion commence.
Avant tout, il faut que l'homme sache ce qu'il doit regarder. Mais la plupart des endormis diront naturellement qu'ils ont un but et qu'ils suivent une direction définie. Pour un homme, se rendre compte qu'il n'a pas de but et qu'il ne va nulle part est le signe que l'éveil devient réellement possible pour lui. L'éveil d'un homme commence en cet instant où il se rend compte qu'il ne va nulle part et qu'il ne sait pas où aller.
Si je disparaissais là, qu'est-ce qui va se passer avec ici? Tu le sais? Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça?
Je me surprends à penser qu'une de ces innombrables tombes autour de moi pourrait porter, graver, mon nom.
J'essaye encore une fois de mettre le mot fin. Mais bon, alors fin, tu vois, fin de l'atelier, fin du cinéma de Boris Lehmann, fin de vie peut-être. C'est cohérent. Est-ce qu'on a une vie cohérente? C'est Adrienne, donc une vieille femme, sur laquelle j'ai fait un portrait. Et elle disait, je prépare mes valises pour l'au-delà. Ça voulait dire, je range tout chez moi. Ça m'a frappé cette phrase. Je fais mes valises pour l'au-delà. Comme quand on part en voyage, il faut que tout soit, qu'on laisse la maison en bon état. Moi, je peux pas dire ça, n'est-ce pas là? Je laisse hop, un chaos désordonné.
Et pour toi, parce que tu n'as pas d'enfant, donc est-ce que la question se pose différemment?
Oui, un peu, mais... Les enfants... Est-ce que les enfants s'intéressent à l'œuvre des parents? Parfois oui, parfois non. Voilà, l'intérêt diminue très, très vite. Que tu sois célèbre ou non, ça ne change pas grand-chose. Quand on vide la maison de quelqu'un qui est mort, ben, tu sais, normalement, en général, ça doit se faire assez vite. On n'a pas le temps de réfléchir, de penser, de faire un tri. Alors, on choisit vite ça, et puis on jette le reste parce que... À un moment, tu as des correspondances, mais tu sais plus qui écrit à qui, tu sais plus ce que c'est. Tout le monde a ça, ça va de soi. Mais bon, c'est difficile d'être mort avant d'être mort, bon. Et en même temps, l'autre attitude, c'est que je m'en fiche, finalement. Voilà, les films iront là. Ils seront dégradés ou restaurés.
Mais à la fois, tu as quand même fait tout un travail pour voir quelle était la cinémathèque idéale pour toi.
Oui, c'est vrai. Les deux qui m'ont le plus impressionné de ce que je connais, c'est Bologne et Lausanne. Oui, bon. Si on fait ça, c'est que, quand même. Oui. On pense à la survie, oui, voilà. En même temps, on ne veut pas le dire, en même temps, on le dit. Hein, donc, en même temps, j'y crois plus, j'ai fait mon deuil, et en même temps, quand même, sinon je ne ferais pas toutes ces démarches. Oui, ambigu, ambivalent. Est-ce que tu veux qu'on prenne tes films ou tu ne veux pas? La balle est dans ton camp, je sais bien, mais j'ai besoin aussi qu'on me... Comme force, un peu comme... Boris, il faut partir.
Boris, c'est Isabelle au téléphone.
aussi et on s'est dit qu'on devrait t'emmener en Suisse, puisque tu te dis que c'est là que ce serait bien pour tes films. La voiture n'est pas très grande, mais je pense qu'on peut mettre une dizaine de cartons. Donc on part et puis on verra sur place comment ça se passe. Dis-nous.
Je pense que cette fois-ci, ça va être un peu difficile de tout prendre.
Bon, regarde là.
T'as réuni au même endroit les...
Oui, ce qu'il faut amener en Suisse, pour le moment, c'est ça.
Celle-là, tu l'as pas photographiée en
fait. Non. Ah.
Et c'est pour être sûr que...
C'est ce que je donne, comme ça je sais les numéros.
Ah oui, espérant que tu ne perdes pas les photos. Dans e-photo.
Oui.
Quand c'est mélangé. 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. On est sûr
qu'on les met dans la voiture directement. Attention, originaux. Hein. Bon.
Let's take key 4803. In 700 meters, turn right.
Exemple. Strasbourg, Mélouse, Nancy, Montarlier, Lausanne.
Boris regardait les paysages défiler et les commentait. Il connaissait les lieux pour la plupart. Il les avait même filmés. Parfois, il chantonnait. Il était joyeux. Mais en arrivant à Lausanne, une soudaine nervosité a pris le dessus, révélant une anxiété profonde et l'importance que revêtait à ses yeux cet éventuel dépôt.
Il faut lui remettre du sang parce que... À droite.
Oui, mais on va dans le mauvais sens.
On va dans le mauvais sens ?
Ben oui.
Mais on dirait que dans cette ville, il faut aller parfois dans le mauvais sens pour reprendre le bon sens.
Ici.
D'accord.
C'est étrange. Hein.
Oh,
ça c'est étrange. Oh. Non, ça pour moi c'est pas bon.
Tu veux pas demander pour les vêtements ?
Non, je ne demande surtout pas. Hein. On ne sait pas. Ici, à droite.
J'ai pas le droit.
Ah, tu peux pas.
Mais non, c'est que pour les piétons.
Ah non, c'est pas possible. Oh.
C'est pour ça qu'à mon
perdu,
avis...
Hein, on est perdu.
Oui.
Non, écoute, il faut monter à droite, c'est tout.
Oui.
Tu peux demander à n'importe qui. Il n'y a pas de problème, quoi. Puis on ne peut pas monter sur la droite, parce que si on est au bon niveau...
Alors, tu vois, donc,
il y a encore... Il fallait reculer tellement. C'était étonnant, hein, tout ce qu'on a fait pour comme recul. Maintenant, peut-être que la voie est liée, peut-être. C'est un peu kafkaïen. Hein
ouais.
On est à côté du château, mais on n'y arrive pas.
Alors là, on est sous terre. On traverse cet énorme corridor. Et de l'autre côté de la route, sous le champ, il y a 3 étages de collection. Et il y a des dizaines de kilomètres de rayonnage et de compactus qui sont remplis de films.
Bonjour. J'essaie de savoir où je suis né. Je suis né à Lausanne, mais je cherche l'hôpital où je suis né. Qu'est-ce que je dois faire ?
On va vous faire un acte de naissance. Quel est votre nom de famille, monsieur ?
Lehmann.
L-E-H.
L-E-H, oui.
M-A-2-N.
Non, Annen.
D'accord. Votre prénom ?
Boris.
Moi, Boris Lehmann.
Boris.
Je suis né à Lausanne le 3 mars 1944.
Quelle est votre date de naissance ?
Certitude.
3 mars 1944.
Je l'ai acquise et retransmise moi-même sans jamais vérifier. Par les documents officiels. Carte d'identité, passeport, abonnement, diplôme, certificat, curriculum vitae. Et par mes anniversaires qu'on ne fêtait jamais. Mais qu'est-ce que j'en sais au juste ? Qu'est-ce que cela signifie pour moi d'être né à Lausanne ? dans un pays neutre pendant que la guerre sévissait dans toute l'Europe. Pour le savoir, je suis revenu à Lausanne, chercher en quelque sorte à rassembler les preuves de mon existence.
J'ai besoin aussi de venir une fois ou deux pour comprendre moi-même
comment
ça se passe. Parce qu'en général, bon, ce sont les gens qui sont morts et on ne leur demande rien, on prend tout ce qui est fait, tout reste après. Du vivant, c'est déjà un petit pourcentage.
Et c'est beaucoup plus facile, parce que c'est vrai que de mon côté, il y a certains...
Boris, le directeur nous attend.
J'ai beau essayer de faire savoir qu'il est né à Lausanne, Boris Lehmann, mais j'ai quand même un peu de peine à le nationaliser. Sa carrière est quand même avant tout belge. Alors, c'est là où commencent les problèmes. Parce que, au départ, je dois privilégier les moyens investis par la Confédération suisse dans le personnel que nous avons pour faire ce travail-là sur les fonds d'archives de cinéastes suisses. Et c'est pas autre chose. C'est pas.
Est-ce que Jean-Marie Straub a acquis la nationalité suisse?
Jean-Marie, je te rappelle. Alors, il n'a pas acquis la nationalité suisse, mais sa société de production s'appelle Belva maintenant et elle est basée en Suisse et il habite à Rolle.
Oui, je sais.
Alors voilà, Jean-Marie a été très.
Donc
très... Non, mais bon.
Il
mais
me
oui,
suffirait
mais attends...
de demander la nationalité suisse.
Ah, tu pourrais,
suisse
ça,
et d'habiter à Lausanne.
Sans rire, ça peut paraître complètement idiot, mais c'est vrai que si tu étais un exilé politique que j'ai en Suisse, ce serait plus facile de trouver des solutions.
Oui, parce que c'est très vite dit la formule « restez chez vous hein, »,« go home ». Mais il s'agit de la Belgique, de l'État belge, de la place de la culture dans l'État belge, de la place du cinéma dans la culture, qui est très, très, très problématique. La preuve en est toujours que la plupart des artistes belges se sont exilés. Si je demande où sont les archives de Henri Pousseur, bon, on me répond à Bâle. Si je demande où sont les manuscrits de Raoul Van Ingem, je parle de Belge, ils sont à Harvard. Il y a quelque chose qui se passe concrètement aujourd'hui avec la Belgique. Tout ça est lié aussi à un moment critique, parce que je vais être expulsé de l'endroit que tu as connu, qui conserve pas mal de choses, et profiter peut-être de ce moment critique pour mettre ça là. Voilà.
Mais c'est pour ça que quand je parle de, disons, dissémination, c'est probablement la solution. C'est-à-dire que c'est difficile, hein, je sais que c'est difficile, mais l'idée de constituer au fond des espèces de fonds, de collections, de paquets qui ont une forme de cohérence, qui dit, voilà, les 16 mm, que ce soit des rushs, que ce soit des choses non montées, etc., nous, on les accueille, par exemple, volontiers. Tout ce qui est plutôt papier, ça pourrait aller ici ou là. Enfin, c'est un peu dommage, parce que c'est de la dissémination, mais en même temps, ça a un avantage de déjà trouver une solution au fond de terres d'accueil multiples pour un cinéaste finalement un peu apatride. J'invente un tout petit peu, mais c'est peut-être aussi une solution.
C'est ce qui est en train de se faire, oui. Tu parles de dissémination, je parlais de dispersion, mais c'est ça, effectivement. Je ne sais pas... En même temps, comme tu dis, j'ai l'impression de crier SOS. Et en même temps, je dis, je ne suis pas demandeur. Il y a une espèce de contradiction. Je ne veux rien demander à personne. Et finalement, ma demande est très exagérée. Et finalement, je peux même dire, je m'en fiche de ce qui arrivera à mes films. Je peux arriver à ce sentiment-là aussi.
C'est pas vrai, Boris.
Oui, mais c'est aussi vrai, je pense, qu'il y a ces deux pôles. Parce qu'on est dans un nœud. Je ne vais pas être embaumé. Donc je suis un peu contre le musée, finalement. Je dirais même que je suis contre l'archive préservée. Bon, mais... De toute façon, je ne choisirai pas. Hein. Ça sera peut-être comme ça. Mais voilà.
Moi, je conçois l'archive comme un matériau vivant qui a été créé, fait, travaillé par quelqu'un qui est là à disposition pour autrui, pour un autre créateur, chercheur, historien, qui un jour viendra, le découvre et en fait quelque chose. Alors parfois ça advient et parfois ça n'advient pas. Voilà, mais c'est le destin de cette archive et tu ne seras pas là et moi je ne serai pas là pour le voir non plus. Mais tant pis, mais au moins on aura fait l'effort de la conserver, de ne pas l'acheter.
Premier transfert.
Peut-être que c'est le moment de voir où ça va aller.
Voilà, d'abord.
Et je dois signer.
Mais évidemment, vous, monsieur Lehmann, vous ne prenez jamais les voies habituelles. Donc la voie habituelle, c'est de faire une demande de dépôt, qu'on vienne chez vous, qu'on évalue. Et vous, c'est plutôt ce qu'on appelle des dépôts sauvages. C'est-à-dire, je débarque devant la cinémathèque avec mes cartons et je mets les archivistes devant le fait accompli. Mais on va remplir le bordereau d'acquisition. Et puis après, on va en rediscuter. Alors, on signe. C'est quand même marqué là-dessus. La cinémathèque suisse se réserve le droit de faire un premier tri en jetant les éléments inutilisables, trop dégradés ou présentant un danger pour la collection. C'est pas le cas ici. Et puis, dans un deuxième temps, la Cinémathèque procède au traitement du fonds en conformité avec sa politique de collection.
Il faut que je fasse au moins une photo.
Alors, on a de la pellicule 16 mm, ça c'est une première constatation qu'on peut faire. Il faut qu'on regarde si c'est de l'image, si c'est du son, si c'est un positif combiné, si c'est du négatif. Et puis, il y a des papiers à l'intérieur de la boîte, il y a du plastique à l'intérieur de la boîte. Et tout ça, il faut enlever parce que ça attaque la pellicule, parce que c'est des documents qui peuvent contenir de l'acidité. On va regarder si c'est de l'acétate, par exemple, si ça a développé le syndrome du vinaigre ou pas. Parce que ça peut représenter un danger pour l'ensemble de la collection, puisque ça se donne. Donc, on va peut-être en mettre en quarantaine. Il y en a qu'on va traiter en priorité, déjà selon l'état physique du matériel.
Ça m'a l'air en bon état.
Ça a l'air en très bon état. Donc, on va classer tout
alors,
ça. Donc, il y a un premier nettoyage. Si vraiment les films sont un peu abîmés, s'ils sont poussiéreux, etc., on a aussi des systèmes d'extraction d'air. Et les documentalistes et les archivistes travaillent avec des blouses, avec des gants. Parce que le fait de manier le film à main nue, ça laisse des dépôts sur le film qui peuvent contribuer à sa décomposition. Donc on a des masques aussi, parce qu'il peut y avoir des champignons sur les films. On incite les gens à travailler avec les masques la plupart du temps.
Je ne vais pas comparer ça à la morgue, hein. Mais bon, je vois quand même là, quelque chose, oui. C'est émouvant.
C'est vrai qu'il y a un côté où on suit le chariot.
Oui.
Et ce matin, en venant, on suivait aussi un corbillard, je ne sais pas si tu remarques.
Hier, on suivait un camion, on pensait que c'était tout mon chez moi qui partait dans le camion. Aujourd'hui, corbillard.
Et en même temps, c'est vrai que voilà. Vous voyez ça comme un peu une perte, etc. Tandis que, de mon point de vue à moi, mais c'est une nouvelle entrée. Donc, quelque part, c'est un peu une nouvelle vie. Et chez nous, c'est le départ du circuit de traitement d'un fonds d'archives.
C'est ça, la transmission. Voilà. Transmission. On ne sait pas ce que ça va devenir, mais voilà, il y a des possibles.
Sur le chemin du retour à Bruxelles, Boris semblait apaisé et déterminé à prendre de grandes décisions. Mais une semaine plus tard, lorsque nous l'avons retrouvé dans son atelier, ses priorités avaient changé. vissé à sa table de montage. Il passait et repassait des plans non utilisés pour leur trouver enfin une place. Il dit...
Ce sont des gens qui ont été filmés, qui n'ont pas été mis dans des films, donc ils sont là. La plupart sont déjà morts, mais ils sont encore vivants dans la pellicule. J'essaye de la ressusciter, on pourrait dire. Parce que dans mon rêve, évidemment, il fallait que je filme tout le monde. Le monde entier doit rentrer là. Dans mon cinéma, c'est une espèce d'obsession rêvée. Mais même si le rêve est impossible, il y a toujours quelque chose à l'arrivée. Quand même un petit fragment de cette idée qui passe. Oui.
Je lui fais remarquer que ce n'est jamais assez pour lui. Il lui faut toujours davantage encore. Sauver de l'oubli. Mais c'est au fond lui-même qu'il voudrait faire enfin entrer dans le monde.
Il y a toujours deux vies. Hein.
Commencer à vivre.
La deuxième commence quand on pense que la première est finie.
En avoir la preuve.
Qu'on va mourir. On est toujours sur cette idée, quoi, que toute sa vie est ratée, on n'a pas fait ce qu'on devait faire, ce qu'on a voulu faire. On a tout loupé. Mais en même temps, ce ratage, c'est la vie. Avec des bons moments.
Mais c'est dans ton caractère. D'ailleurs, tu disais, je pense toujours aux choses que j'ai oubliées, aux choses que j'ai ratées, parce qu'il y a des gens qui ont cette sérénité. Ils sont contents de leur vie.
Oui, c'est sûr.
Alors toi, tu n'es pas serein. Tu es joyeux, tu es malicieux, mais tu n'es pas serein. Si ?
J'essaye de commencer à être serein, oui. C'est l'âge. Sérénité, sérénité, sérénité. Il faut imaginer Sisyphe heureux.
Avec Boris Lehmann, Daniel Gers, Patrick Lebout, Ariana Turchi, Serge Golwicht, Laurent Durcel, Léole Poubelle, Justin Mackenzie, Frédéric Maire, Aline Ourier.
Coordination, Aurélie Charon. Assisté d'Inès Tupéron. Mixage, Bruno Mourlan. Prise de son, Sandrine Malon. Réalisation, Diffy Mariani. Un documentaire d'Isabelle Ingold et Viviane Perelmutter.
Remerciements à la Fondation Boris Lehmann et Dove Film pour les extraits de films, la Cinémathèque Royale de Belgique, l'INSAS et la Cinémathèque Suisse.
La semaine prochaine dans l'expérience, un animal parle à la radio. C'est un caméléon qui prend la parole et qui raconte des histoires mettant en scène des humains. Esprits animaux par Alice Roland, Stéphane Montero et Véronique Lavandour. En attendant, il sera bientôt 23h, vous écoutez France Culture, vous retrouvez Mathias Sénard, la salle des machines.